Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2-0.
Kaká in percussione, Sciacca l'ingresso in aria ancora, Kaká, davanti al portiere, Kaká, rete, 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 Kaká.
Pallone che arriva, Trezeguet, Toni! Pirlo ancora, Pirlo di tacco, tiro, gol! Prova a girarsi Icardi, destro secco, rete, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Avanti Cavani, avanti Matador, avanti Matador, sei tutti noi Matador, ci prova con il destro, e la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, Matador!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pépé, le podcast 100% foot italien. On continue notre bilan de la saison 2021-2022 et comme on vous l'a déjà dit dans les épisodes précédents, on fait un épisode un peu plus court concernant chaque grosse équipe et on en fera un peu plus long, un peu pêle-mêle, un peu fourre-tout avec le reste de la Serie A. Je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume Meyer-Pacini. Salut Guillaume.
Salut Johan, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Bon Guillaume, on a fait les deux clubs milanais, maintenant place au soleil, place au sud, en Campanie, et on s'intéresse évidemment au Napoli. Je rappelle un petit peu l'organisation de ce podcast, l'évaluation globale de la saison, par rapport aux attentes, par rapport au contenu des matchs, donc le jeu, par rapport à la performance collective, l'impact de l'entraîneur, etc. Ensuite on fait le joueur de la saison,
oui.
On fait la recrue de la saison, qui peuvent être... parfois, mais pas toujours, le même joueur. Et puis on termine par la petite note, Guillaume.
La fameuse Pagelle.
Exactement, si cher à nos amis italiens. Le moment le plus attendu, 3 heures après le match, 2 heures après le match. Absolument se jeter sur ça.
Et par les joueurs aussi.
Notamment par les joueurs. Notamment par les joueurs.
Ils sont toujours très attentifs quand même aux notes que les journalistes leur décernent.
C'est clair. Alors Guillaume, on commence par l'évaluation globale de la saison. On ne change pas une organisation qui gagne. L'objectif du début de saison pour le Napoli, c'était de terminer dans les 4 premiers et retrouver enfin la Ligue des Champions. Enfin, la Ligue des Champions après 2 saisons d'absence, Guillaume.
Exact. Avec la promotion de Spalletti. Alors Spalletti, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et on va en parler tous les deux, Johan, c'est quand même une garantie de top 4 généralement, parce que c'est par exemple un entraîneur qui a ramené aussi l'Inter en Ligue des Champions. Donc voilà, l'objectif de début de saison pour le Napoli, c'était le top 4, la C1. Après, on va voir au fur et à mesure des semaines, des journées et même du début de saison, le Napoli s'est un peu pris au jeu de viser un peu plus haut, ce qui a un peu déçu les attentes. On ne va pas spoiler la suite, mais en tout cas, voilà. l'objectif en interne était vraiment ramener le club en Ligue des Champions.
Bon, et puis, on peut déjà le dire, hein, objectif atteint, Guillaume.
Objectif atteint. Objectif atteint, oui. Parce qu'il termine en plus sur le podium. Donc, ça reste. Il y a un moment, quand même, tu vois, dans la saison où la Juve était pas loin du tout, même. En tout cas, le Napoli, même dans les moments les plus compliqués, a su garder sa troisième place qui, alors certes, au niveau comptable, ne change pas grand-chose, c'est toujours en C1, il n'y a pas de préliminaire, on le rappelle en Italie, mais voilà, le fait de terminer sur le podium aussi pour Napoli, pour Spalletti et pour les supporters, c'est évidemment, ce n'est pas un trophée, la déception est probablement encore là, mais en tout cas, voilà, pour les joueurs du moins, c'est important de terminer cette belle saison sur le podium derrière les deux clubs de Milan qui n'ont rien lâché jusqu'au bout.
Comme pour les autres bilans, donc du Milan et de l'Inter que l'on a déjà fait, on regarde rapidement du côté des autres compétitions. Et si on a dit objectif atteint pour la Serie A, Guillaume, pour le reste, très décevant. Élimination au premier tour de la Coupe d'Italie contre la Fiorentina. Et puis c'est pas une petite élimination, hein, c'est une claque. 5-2 à domicile. Et alors, ce qui a encore le plus de mal à passer pour moi, c'est l'élimination en barrage de l'Europa League. Alors, élimination en barrage parce qu'ils ont terminé deuxième de phase de groupe. Et c'est là où... C'est pas tant l'élimination contre le Barça en barrage, même si, honnêtement, c'était pas un grand Barça. On l'a vu au tour d'après, il y avait carrément la place de plus bousculer ce Barça-là. En phase de groupe, c'est là où moi où j'étais le plus déçu, parce que t'es dans un groupe déjà avec Leicester, le Spartak et le Legia Varsovie. Bon, sur le papier, ça vaut ce que ça vaut. C'est quand même un groupe abordable. Et tu passes pas, enfin tu passes seulement deuxième qui t'emmène vers les barrages parce que tu ne termines pas premier, parce que tu fais un 0 sur 6 contre le Spartak.
Et t'as pensé quoi, toi, cette défaite contre le Barça? Est-ce que tu t'y attendais ou est-ce que. Parce qu'on rappelle quand même que le Barça à l'époque. Parce que tu vois, moi, alors, évidemment que la défaite au retour avec l'attente, mais tu vois, je m'attendais quand même à autre chose. Alors même si c'était même si c'est évidemment le Barça de Xavi, qu'il est en reprise, qu'on voyait que ça allait mieux après une première partie de saison compliquée sous Coman. C'est vrai que Napoli-Barça, tu vois, avec l'euphorie, avec l'ambiance, avec la saison que faisait Naples, moi, je m'attendais quand même à autre chose, même au niveau, comment dire, pas de l'envie, tu vois, mais de ce que dégageait ce groupe-là. Je pensais vraiment que le Napoli pouvait le faire.
Mais tu pensais peut-être aussi, est-ce que tu pensais à un peu plus de maturité, parce que moi j'ai trouvé
exactement
qu'ils ont été,
oui,
très naïfs. Tu te souviens, je me rappelle plus si c'est le premier ou le deuxième but qui est sur une transition après un corner totalement raté joué par le Napoli, et ils se font contrer. Je crois que c'est le premier, hein, il me semble que c'est le premier but de Jordi Alba, où ils se font avoir mais comme des débutants,
comme
en
des
fait
bleus.
Ouais, c'est ça. Et ça m'avait extrêmement déçu. Et c'est vrai que tu prends deux buts dans le premier quart d'heure. Après, je ne vais pas dire que le match est terminé, parce que finalement, Insigne avait réduit assez rapidement l'écart sur penalty. Mais tu t'es mis dans une position très, très délicate. Et c'est vrai que, sincèrement, je m'attendais à autre chose. Bah, vraiment.
Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que le score, quand tu le vois comme ça, évidemment, est éclatant. Mais c'est vrai que même, on va dire, parce que c'était vraiment un match qui était très attendu à Naples. On sait qu'il y a eu aussi des problèmes cette saison avec la billetterie, avec les supporters qui se plaignaient parfois aussi par rapport au salaire. Il y a eu quand même pas mal de conflits entre la direction et les supporters.
Comme depuis un moment, malheureusement.
Exactement. Mais c'est vrai que tu vois, ce match contre le Barça, j'ai l'impression où tout le monde s'est dit, bon, allez, on fait bloc et on va le faire. Parce qu'en plus, voilà, il y avait évidemment cette symbolique autour du Barça, avec Maradona, voilà, il y a plein de choses. Et vraiment... Et je me souviens aussi avant le match où Spalletti avait. Alors, ça peut être aussi un problème, on en parlera, mais où il avait vraiment, tu sais, harangué les foules. Et moi, je me souviens quand Ancelotti a toujours dit que quand tu haranguais trop les foules ou que tu mettais trop d'enjeux, trop d'envie, parfois tu dépassais un peu les limites et les lignes. Et c'est vrai que l'équipe partait dans tous les sens. Là, contre le Barça, j'ai vu une équipe vraiment, comme tu disais, qui n'était pas mature et qui s'est fait avoir sur des choses où. Habituellement, elle se serait pas fait avoir. Donc, c'est vraiment pour moi l'une des seules fois où cette saison le Napoli m'a déçu, au-delà de la fin. Mais c'est vraiment ce match contre le Barça m'avait vraiment mis une claque parce que je m'attendais à mieux et je pensais vraiment que ce Napoli-là pouvait le faire, surtout après l'aller évidemment. Et c'est pour moi, on va dire, une partie couperet de la saison où, voilà, c'est vrai qu'à partir de là, j'ai eu des doutes quand même sur la capacité du Napoli à aller même au bout du Scudetto.
C'est vrai, et ce match-là a été effectivement très difficile à digérer.
Métabolisme.
Ouais, voilà, c'est vrai. Et c'est bien le premier but en transition marqué par le Barça, où au départ, c'est une action en faveur du Napoli. On revient en Serie A, on va parler un petit peu du jeu. On connaît hein, les équipes de Spalletti, on l'a vu à l'Inter, on l'a vu à la Roma, on l'a même vu à l'Udinese. Moi, je me souviens avoir vu aussi des matchs de son Zénith à l'époque en Russie. On savait qu'on aurait une équipe qui aurait beaucoup le ballon parce que Spalletti adore ça et que c'est un des premiers trucs qu'il amène dans son équipe. C'est d'ailleurs la possession la plus élevée de Serie A cette saison, 59% du temps. C'est une équipe qui quand même avait beaucoup de petits gabarits, doués dans les petits espaces. Alors, au milieu de terrain, Lobotka en deuxième partie de saison, parce que souvenons-nous quand même que s'il termine très fort, eh bien, en première partie de saison, c'est pas lui qui était titulaire.
Non.
Sur la ligne d'attaque, quand tu avais d'aligner, alors c'était rare qu'ils soient tous alignés en même temps, mais Insigne, Lozano, Politano ou Insigne, Lozano, Mertens par exemple, tu avais quand même des petits gabarits ou qui sont très à l'aise dans les petits espaces, qui sont assez difficiles à lire dans leur déplacement et dans leur palette technique de feinte, de dribble, etc. Donc on a eu globalement un jeu de qualité, je pense que tu es d'accord avec moi Guillaume,
ouais.
Un jeu presque plus espagnol de l'époque que finalement ce qu'on voit beaucoup actuellement de contre-pressing, etc. À l'échelle européenne. Et puis je termine un petit peu avec les chiffres, co-meilleure défense avec Milan, on l'a dit tout à l'heure pour le Milan, 31 buts encaissés. Troisième meilleure attaque avec 74 buts marqués, mais par contre, moi, et c'est un truc que j'ai beaucoup suivi cette saison, une très grosse surperformance devant le but, parce qu'ils sont à 59 expected goals pour 74 buts marqués. C'est la deuxième plus grosse surperformance de Serie A, donc c'est plus 15, hein, le différentiel entre buts marqués et expected goals. On verra, on parlera de celle qui est encore plus surperformé devant le but, mais c'est lié à des buts difficiles qu'ils ont marqués. Et quand on a des joueurs qui sont capables de marquer de l'extérieur de la surface, comme Insigne, comme Politano, comme Fabien Ruiz, Guillaume, forcément ça débloque aussi des situations qui parfois sont un petit peu bloquées ou des équipes qui ont un bloc un petit peu bas. Bah, t'as des joueurs qui de l'extérieur de la surface sont capables de marquer.
Exactement, et c'est aussi une équipe, Johan, qui a paradoxalement eu beaucoup de difficultés à domicile. Et qu'on a eu moins à l'extérieur. Si tu regardes un peu le rendement à l'extérieur, tu as une équipe qui est vraiment dans les clous pour remporter le Scudetto. Et si tu regardes le rendement à domicile, tu as vraiment une équipe qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. On en a parlé sur le podcast spécial AC Milan. Il y a eu cette défaite, évidemment, à l'époque, qui était vraiment, c'est vraiment le match du titre, hein, avec les deux équipes à égalité de points. Et à l'époque, le Napoli le perd à domicile. Et c'est vrai qu'il y a certains matchs vraiment où tu sentais que le Napoli était plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. Et c'est vrai que ça avait été souvent souligné sur les médias napolitains. Et on l'a vu tout au long de la saison où tu as des matchs où tu es capable d'aller imposer ton jeu. Alors je ne sais pas si parce que tu te sens peut-être plus libre ou peut-être, comment dire, que tu subis peut-être moins la pression des supporters, même pour certains joueurs. On sait que certains joueurs parfois sont plus à l'aise. De jouer à l'extérieur qu'à domicile. Mais en tout cas, cette saison, c'est vrai que la différence de rendement entre domicile et extérieur est assez dingue. Je pense notamment aussi à la défaite avant la trêve hivernale contre la Spezia à domicile. Et c'est vrai que voilà, il y a eu beaucoup de faux pas qui ont été fatales, hein, dans la course au titre. Évidemment, pour moi, la défaite la plus éclatante et la plus rocambolesque, c'est une défaite cette fois à l'extérieur, mais contre Empoli, où vraiment là, et après on pourra parler des conséquences qu'a eu cette défaite dans l'environnement napolitain, mais cette défaite, on le rappelle, le Napoli gagnait 2-0, plutôt tranquillement d'ailleurs, sur le terrain d'Empoli qui n'avait quasiment plus rien à jouer, et ils prennent 3 buts en combien de temps, Johan? 10 minutes,
ouais,
par là,
à peine.
Même. Ouais, à peine 10 minutes. Et c'est vrai que cette défaite-là, qui était en fin de saison, hein, parce que c'était à la 34e journée, donc après il ne restait plus que quelques matchs. Cette défaite-là qui annule vraiment toutes les ambitions pour le titre et qui met sans dessus-dessous le fameux ambiente, donc l'environnement napolitain, a vraiment eu des traces et des répercussions qui, aujourd'hui, je trouve, se ressentent encore, même si autour du club, on essaye d'apaiser les choses, avec le président De Laurentiis sur le front pour calmer tout ça, en confirmant Spalletti dans ses fonctions, en confirmant certains joueurs aussi. Mais c'est vrai que cette défaite-là a laissé des traces. Et même si le Napoli a terminé en boulet de canon sa saison, parce qu'ils ont gagné contre Sassuolo, contre le Torino, contre le Genoa, contre le Spezia, c'est vrai que cette défaite-là, vraiment, sur l'environnement, Johan, a laissé des traces qui restent encore visibles, comme souvent, malheureusement, à Naples. On est toujours beaucoup dans l'émotion et on manque parfois peut-être de sang-froid parce qu'il manque peut-être pour moi, tu sais, une figure, j'ai envie de te dire, à la Maldini ou à Zanetti, qui fasse vraiment, tu sais, le lien parfois entre la direction et l'équipe sans que le président n'intervienne tout le temps dans les affaires quotidiennes de l'équipe et du club et du vestiaire.
Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit. La première chose, c'est tu as parlé du match à Empoli. Et moi, je me souviens, deux journées avant, il y avait eu la défaite à domicile contre la Fiorentina. C'était la 32e journée et je me souviens avoir débriefé la radio et avoir dit, je ne comprends absolument pas ce qui se passe à Naples après cette défaite, parce qu'il y a un espèce de catastrophisme qui arrive déjà après une simple défaite. Alors qu'à l'époque, même après la défaite contre la Fiorentina, je crois que tu es à 1 ou 2 points du leader. Donc tu es totalement encore dans la course. Que j'ai eu du mal à expliquer. Je me souviens que Koulibaly avait lancé un espèce de signal d'alarme après le match. Tu te souviens d'Insigné, les premières larmes en quittant le San Paolo.
Insigné, les larmes, c'est contre la Roma, du coup, le match d'après.
Mais même le match d'avant contre la Fiorentina, les deux matchs d'affilée, en fait.
Quand tu vois le capitaine pleurer alors qu'il reste des journées, que c'est encore
bien
possible.
Sûr.
C'est vrai, on en avait parlé dans un précédent podcast, mais c'est vrai que cette émotion qui est toujours vive, parce que aussi, moi j'en ai parlé avec des journalistes napolitains qui me disaient, mais tu sais, ici, on est beaucoup aussi, tu sais, dans l'euphorie, dans l'émotion. Rappelle-toi, Johan, cette victoire contre la Juve à l'époque avec Sarri, peut-être de Koulibaly. C'est toujours tout l'un ou tout l'autre. Et en fait, on a toujours du mal un peu à être plus rationnel et dans les moments plus compliqués, à ne pas dramatiser une situation qui ne doit pas l'être. Et c'est vrai que à Naples, c'est souvent le problème parce qu'il manque peut-être une figure. Mais pour revenir à tes propos, c'est vrai que les larmes d'Insigné, je me souviens vraiment de ça contre la Roma où il arrive devant la Kova, il s'excuse, il rentre, maillot sur la tête, larmes qui coulent. Et t'as l'impression vraiment qu'ils viennent de perdre alors qu'il restait 5-6 journées. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui à l'époque m'avait marqué parce que je me suis dit, mais c'est pas fini, attendez.
Mais c'est ça, et puis Spalletti qui avait dramatisé aussi après la Fiorentina en conf de presse, les journalistes locaux qui, c'est limite, ça y est, ils ont encore échoué. Mais attendez, vous êtes à un point, je sais plus si c'était 1 point ou 2 points du leader, il y a le temps en fait, il reste encore de quoi se battre, etc. Et c'est un climat qui avait été vraiment très spécial, qui avait amené l'équipe ensuite jusqu'au match contre la Roma, où il commence très fort en première mi-temps, il s'effondre en deuxième mi-temps où la Roma est largement supérieure, il y a un partout avec une égalisation d'El Shaarawy à la...
traditionnelle quasiment.
Ouais, 91e, 92e, je ne sais plus trop exactement. Et une semaine encore après, le Harakiri dont tu as parlé à Empoli. Et je crois que c'est dans le podcast d'avant, ou celui encore d'avant, je comparais, tu sais, la Roma et le Napoli. Et tu as raison de parler d'émotion. Ce sont deux clubs, qui sont instables émotionnellement. Et je pense que tu ne peux aller nulle part quand tes clubs sont aussi instables émotionnellement. Parce que tu ne peux rien construire. Parce que tu te laisses guider et donc décider par des émotions. Et tu sais, Guillaume, quand je vois depuis la fin de la saison les différentes prises de parole de De Laurentiis, je me dis qu'en fait, ça ne peut pas avancer. Parce que t'es quand même sur une... On va donner la note tout à l'heure, mais on est quand même sur une très bonne saison du Napoli.
Enfin,
en championnat, en Europa League, moi je suis déçu, et même la Coupe d'Italie, je suis un peu déçu. Mais en championnat, t'as atteint l'objectif. L'objectif, c'était quoi? 4 premiers, tu finis 3e. Bon, l'objectif, il est atteint. Les différentes prises de parole de De Laurentiis, un coup c'est sur Spalletti, un coup c'est sur les joueurs... Que tu aies des difficultés à prolonger certains joueurs, ok. Mais là encore, tu en fais une histoire d'émotion. C'est-à-dire que tu joues sur la corde sensible avec des Koulibaly, avec des Mertens, en disant oui, bah si, si on verra si il y a une prise de parole ces derniers jours, on verra si
ils sont plus, prendre, ouais.
Ouais, ils sont plus intéressés par l'argent que par ce qu'on peut construire à Naples, l'état d'esprit qu'on trouve à Naples, l'environnement à Naples, etc. C'est pas simplement ça la question en fait. Donc chaque petit fait en fait est mis sous la cloche de l'émotion. Et une fois que la cloche elle est refermée, que tu circules entre toi, etc. Dans cet environnement là, et eh ben c'est pas sain en fait. Et je me dis et à Rome ça a longtemps été ça, c'est encore ça. Tout n'a pas changé avec la Conference League, loin de là. Tu peux arriver nulle part en fait.
Mais parce qu'on rappelle que après cette fameuse défaite à Empoli, il y a eu la mise au vert.
Bien sûr.
Il y a eu une mise au vert au tout début, puis finalement elle est annulée et des repas liés à la psychologie avec des tables de 5 joueurs, avec le président, l'entraîneur. Enfin, il y a vraiment avec un président évidemment qui est un personnage du football italien qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais évidemment c'est un personnage qui est décrié, qui fait parler, qui est toujours aussi dans le phrasé, il aime beaucoup ce qu'il dit, fait attention. Et moi, j'ai une question, c'est, on parlait d'un club et d'une ville qui sont sujets aux émotions, mais est-ce qu'un entraîneur comme Spalletti, alors que moi j'aime beaucoup, et je ne m'en suis jamais caché, c'est un entraîneur que j'apprécie, parce que pour moi ça reste une garantie, alors pas de trophée, mais du moins d'avoir une garantie de top 4, on va dire.
Et de jeu.
Et de jeu, exactement. Moi, la première Roma, pour moi, était vraiment incroyable. Mais pour revenir à Spalletti, est-ce que ce n'est pas un entraîneur, justement,
ouais.
Moi, il y a vraiment des conférences de presse, et j'en ai vu beaucoup cette saison, avant certains gros matchs. Et je me souviens qu'avant le match, il me semble que c'était face à l'AC Milan, où il dit, j'espère, alors on rappelle, hein, le contexte, c'est deux égalités, les deux premiers, c'était la 28e journée, et il dit, j'espère que l'esprit de Maradona sera avec nous. Et tu vois, tout de suite, à ton vestiaire, à ton équipe, tu mets une pression monstre, ouais. Et tu crées un enjeu qui évidemment est important. Mais pour moi, tu crées quelque chose qui est beaucoup trop grand, qui dépasse parfois les frontières du simple sport. Et contrairement, toi, où tu as un entraîneur comme Pioli ou comme Inzaghi, qui sont, on va dire, assez normaux, et surtout Pioli, d'ailleurs, on le surnomme le normal one, entre guillemets, en Italie, mais tu vois qu'il ne fait jamais de vagues, qu'il reste toujours sobre, qu'il fait attention à chaque mot qu'il dit, mais vraiment pour pas faire de vagues. Et c'est vrai que Spalletti, qui est un personnage qui aime beaucoup la rhétorique, qui calcule ses phrases, qui calcule ce qu'il dit, calcule ses tout, qui calcule tout, est-ce que c'est quelque chose. Alors, on sait qu'il aime les caméras, et pour moi, je ne sais pas vraiment si, à long terme, si c'est un entraîneur, qui est capable de gérer cet aspect émotionnel du club, de la ville. Parce que, alors moi, j'aime beaucoup ce côté émotionnel. Hein, c'est ce qui fait le charme aussi de cette ville qui est merveilleuse, de ce club, de cette équipe. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt un entraîneur plus rationnel qui est capable de gérer cet aspect-là? Mais malheureusement, je ne pense pas que ça pourrait marcher parce qu'on l'a vu, par exemple, avec un entraîneur, avec tous les entraîneurs, Gattuso, Ancelotti, ça se termine souvent mal. Même Benitez à l'époque, ça se finit toujours mal avec De Laurentiis. Alors, il y a un journaliste napolitain qui m'a dit, à ton avis, ça se termine toujours mal, c'est de la faute d'entraîneur ou c'est de la faute du président? Et c'est vrai qu'à force, la question se pose. Et tu vois, je ne sais pas, et c'est la question que je te pose, est-ce que pour toi, Spalletti, vraiment, au-delà de l'entraîneur qu'on reconnaît, parce qu'il a un passé quand même qui est sérieux, est-ce que pour toi, c'est le bon coach pour gérer justement ce côté émotionnel qui parfois est le défaut de cette équipe, de ce club et de cette ville? Est-ce que la question se pose déjà?
Totalement. La question se pose totalement, mais en fait, il n'y a pas de réponse si ça ne concerne que l'entraîneur. Parce que moi, le côté théâtral de Spalletti, voilà, ouais. J'ai beaucoup de mal avec ça, vous le savez, j'ai répété plein de fois. Moi, c'est acte 2, scène 5 en permanence en conférence de presse. Ça va, au bout d'un moment, on a compris. On a compris qu'il s'aimait beaucoup, qu'il s'écoutait beaucoup, qu'il voulait en faire un rendez-vous à ne pas manquer, qu'il aimait bien les petites phrases et il savait que ça allait être repris, etc. Ok, très bien. Le problème, c'est que dans la démonstration que tu as faite, tu as fait la question et la réponse. La réponse, c'est qu'on a essayé autre chose à Naples. Je veux dire, quand on a un entraîneur comme Carlo Ancelotti et que ça se termine de la même manière, avec même encore pire des trucs, genre on refuse d'aller en vert, en mise au vert, etc. Mais bon, la mise au vert, elle avait été décrétée par qui ? Par le président. On en revient toujours un petit peu au même point. Donc, le fait d'essayer d'avoir un quotidien plus normal, ça ne peut pas passer que par la figure de l'entraîneur. Donc j'ai envie de te dire que tant qu'il y aura ce président-là, et après tout, c'est sa nature, donc ce sera difficile de le changer à son âge, c'est son argent, donc il est bien libre de faire ce qu'il veut dans le respect quand même des supporters, de l'histoire du club, etc. Ça, il faut jamais s'en éloigner. Mais je vois pas trop d'issue, en fait, à cette problématique-là, à cette équation. Parce que on a mis des Benitez, des Ancelotti qui sont plus froids, des Gattuso aussi. On a vu vraiment un panel d'entraîneurs très différents, aux personnalités très différentes. Et finalement, un Maurizio Sarri aussi. Donc finalement, rien n'a vraiment changé. Donc moi, je vois pas d'issue vraiment possible à ça. Je suis comme toi, moi, Spalletti tacticien, ça me plaît beaucoup. Spalletti manager, nettement moins. Et...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bah d'ailleurs, il y a toujours eu des relations parfois conflictuelles aussi avec ses capitaines, hein, avec ses joueurs. Là, j'ai plus joué en tête il y a quelques temps. Je disais un ancien joueur de la Roma qui disait que c'était un très bon entraîneur. Mais qu'au niveau du relationnel, il avait aussi un peu péché, même s'il le respectait. Mais parfois, c'est vrai qu'au niveau de la relation qu'il peut avoir avec ses joueurs et avec ses capitaines, il a souvent eu des problèmes, que ce soit à la Roma, que ce soit à l'Inter, même si Icardi, évidemment, avait ses fautes. Mais c'est vrai que Spalletti aime être protagoniste. Et parfois, ça peut aussi poser problème au vestiaire. Et moi, je trouve vraiment dans ses déclarations, parfois, il met trop de pression et... tu sais, en italien, il y a ce verbe caricare, c'est-à-dire motiver les troupes. Et pour moi, des fois, il est trop dans l'excès. Et on va dire qu'il fait d'un match à enjeu, un match vraiment quasiment vital pour la suite, pour le club, pour l'équipe. Alors que des fois, il suffit de désamorcer un peu la pression, la bombe, pour que ton équipe retrouve de la sérénité, justement, et pour qu'elle aborde le match de manière très tranquille. Regarde l'AC Milan dans les derniers, de la dernière. Phase de la saison avec des gros matchs et ils les ont quand même maîtrisés un par un sans jamais s'affoler. Ouais. Et c'est vrai que parfois Naples, j'ai pas retrouvé ce calme que peut inculquer l'entraîneur et pour moi c'est parfois ce qui manque à cette équipe et on va le dire qui est sujet aux émotions.
Mais tu sais, Guillaume, t'as raison d'insister sur le discours, etc. Mais entre motivé et apeuré, la frontière elle est un peu mince hein, en fait. Motivé c'est bien, mais quand tu surmotives, tu pousses les gens à se rendre compte du moment qu'ils sont en train de vivre ou qu'ils vont vivre. Et parfois, ça peut inhiber, ça peut apeurer. Et c'est un peu à double tranchant comme communication. Donc effectivement, je trouve qu'il y aurait beaucoup de choses à revoir. Autant sur le jeu développé, moi, ça me séduit toujours, Spalletti. Et le jeu du Napoli, il faudrait vraiment être aveugle ou de mauvaise foi. Oui. Pour ne pas avoir apprécié ce qu'on a vu cette saison.
Ah, bien sûr. La première partie de saison, c'est 10 victoires, 2 nuls. Hein.
Exactement. Et puis c'est beaucoup de jeux. C'est à la fois la capacité de contrôle en phase de possession, même contre des blocs bas où effectivement tes joueurs qui sont très à l'aise pour tirer de l'extérieur de la surface te sont très utiles pour débloquer des situations compliquées. Mais aussi en transition parce que tu as des joueurs qui vont vite. Quand tu as un Politano, un Lozano, un Osimhen, tu as évidemment des joueurs qui sont très rapides et qui prennent très bien la profondeur. Mais c'est vrai que le côté communicant est un peu plus... laisse un peu plus perplexe. Guillaume, ton joueur de la saison côté Napoli?
Écoute, je me demande si on aura le même, mais je présume. Moi, j'ai voté pour Victor Osimhen. Ouais. Déjà parce que, évidemment, au niveau, on va dire, comptable, il a réalisé une grosse saison parce qu'il a marqué 18 buts en 32 matchs, dont 14 en Serie A. Mais alors, je te laisserai développer peut-être le côté du jeu. Mais tu vois, moi, le côté justement émotionnel et de ce lien qui a été créé entre Osimhen et la Piazza, justement, ça me fait penser un peu à celle, tu sais, qui est entre Abraham et la Roma.
Ouais.
Il y a un peu ce coup de foudre entre guillemets réciproque. Alors, Osimhen, on sait qu'il y a beaucoup de rumeurs de départ, mais on espère qu'il va rester. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression de voir un attaquant qui s'est attaché à l'environnement napolitain. Évidemment que c'est réciproque pour les tifosi. Mais cette saison, voilà, on sait qu'au tout début de son aventure, on le sait, il a eu des périodes plus compliquées parce qu'il a été blessé, il était souvent absent, il avait du mal à enchaîner. Et cette saison, vraiment, j'ai vu un attaquant qui a su prendre son équipe en main quand il le fallait. Il faut pas oublier aussi qu'il y a eu une absence qui a duré de novembre à... Non, si c'était de novembre à... Ça a duré pas mal de temps.
Et puis il y a eu la CAN après, donc
Ouais, il y a eu la CAN exactement. Puis il y a eu ce choc avec Skriniar qui avait été très brutal.
ouais.
Donc ouais, il a encore une saison tourmentée. Mais il a su quand même répondre présent au moment où il le fallait. Il a marqué des buts très importants dans la saison. Et c'est un joueur vraiment qui, pour moi, cette saison est vraiment devenu un leader des siens. Et c'est pour ça que je trouverais dommage de le voir partir maintenant parce que j'ai l'impression qu'il a su trouver sa place dans le club, dans l'équipe. Et c'est un joueur en plus qui est capable de marquer de toutes les façons possibles. Et moi, c'est un truc qui me bluffe de la tête, du droit, du gauche. C'est vraiment un joueur qui a une palette, un attaquant, un buteur, qui a une palette assez vaste. Évidemment, on connaissait sa vitesse, on connaissait ses dribbles, on connaissait sa finition. Mais voilà, cette saison, vraiment, avec justement le jeu prôné par Spalletti, je l'ai vraiment bien aimé dans le rôle de terminal offensif, même si pour moi, il a un peu plus parce qu'il est capable aussi de varier son jeu en fonction de l'adversaire, que ce soit le pivot, que ce soit la profondeur. C'est vraiment une épine dans le pied de chaque défense quand tu l'as en face de toi.
Je souscris en tout point à ce que tu as dit. La seule. Alors, je l'ai aussi en joueur de la saison, évidemment. Mais tu vois, moi, il n'a pas émergé ultra naturellement. Parce que moi, j'ai un problème encore avec lui. Bah, c'est qu'il a quasiment raté un tiers du championnat. Et la saison dernière, tu fais 24 matchs. Là, tu en fais 27. Fait quand même que 51 matchs en deux saisons. C'est le 12e temps de jeu de l'effectif en Serie A cette saison. C'est-à-dire quand même qu'il y a un 11 sans lui. Il y a 14 buts et effectivement il est redoutable, notamment sur jeu aérien. Cette saison, je trouve qu'il a énormément progressé. Et dans ce que tu disais, Guillaume, tu sais, le côté personnalité,
Ouais,
très bien adapté, etc. Mais tu sais, quand on a pris l'exemple de Spalletti motivé, moi je suis pas certain que surmotiver un mec comme Osimhen, ça soit productif parce que je le vois extrêmement nerveux sur beaucoup de matchs. Mais c'est de la nervosité parce qu'il veut bien faire. Mais le problème, c'est que la nervosité, bah, ça crée une humeur générale qui peut lui être reprochée par des coéquipiers. Parce qu'il hurle souvent après ses coéquipiers, il lève les bras, il n'est pas content, etc., etc. Et deuxième chose, ça lui fait perdre en concentration sur les phases d'attaque et il rate encore des trucs qu'il ne devrait pas rater.
c'est un attaquant qui est très sujet aux émotions. Là-dessus,
Exactement.
je suis totalement d'accord avec
Et
toi.
justement, moi, tu vois, je m'étais noté dans un petit point, doit gagner en calme et en sérénité. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, peut être rédhibitoire au plus haut niveau, en fait.
Même avec les arbitres, hein, où
Et
parfois il a
bien
du mal
sûr.
aussi à se
Bien sûr.
contrôler.
Et voilà, je l'ai mis comme toi. Je peux pas dire qu'il ait émergé ultra naturellement dans ma décision, comme dans d'autres clubs qu'on a déjà fait ou qu'on va faire par la suite. Mais je vois encore. Je peux pas dire que je suis ultra satisfait de sa saison, par exemple, tu vois.
Non, mais je suis d'accord, moi, sur le côté attitude. Je vois ce que tu veux dire. Il y a des joueurs comme ça en série. Tu vois, par exemple, moi, un joueur dans ce sens qui me gêne un peu niveau son attitude, c'est Mancini de la Roma,
Ouais.
où je trouve vraiment que
Ah
parfois,
oui.
tu vois, il exagère beaucoup. Je peux comprendre, tu vois, que les tifosi l'aiment bien parce que quand tu l'as avec toi, mais c'est vrai que je le vois parfois en Italie, on dit al di fuori delle righe, donc vraiment en dehors des lignes parce qu'il dépasse ses limites. Sous certains points, c'est vrai qu'Osimhen, je vois ce côté, ce que tu veux dire, et j'ai vérifié, il a quand même manqué après sa blessure contre l'Inter. Alors le pauvre, il n'était pas pour grand-chose, mais il était absent du 28 novembre au 9 janvier. Et c'est vrai que ça a été quand même une période assez compliquée, même pour le Napoli, hein, parce qu'il perd contre l'Atalanta, il perd contre Empoli, et il perd contre Spezia. Hein, ils font 2-2 contre Sassuolo aussi, et 1 contre la Juve. Donc tu vois, pendant l'absence d'Osimhen, quand même, il y a eu aussi une période assez rude pour l'équipe. Et dans ce moment-là, il a manqué peut-être aussi le moment décisif de la saison, où le Napoli a perdu beaucoup de points, qui à la fin bah, te coûte le titre. Mais en joueur de la saison, pour moi, voilà, c'est Osimhen. Mais c'est vrai que le côté attitude, je l'ai souvent souligné. Et c'est vrai que j'aimerais qu'il gagne, comment dire, en calme, tu vois, et en sérénité, parce que, tu vois, comme Abraham peut être très, très sujet aux émotions, je trouve qu'il est moins explicite, tu
C'est
vois,
vrai.
moins,
Il
voilà,
les
moins.
exprime moins, en tout cas.
Exactement, il est moins. Puis c'est même moins voyant, moins spectaculaire. Il est très attaché à la Roma, il le dit tout le temps, il est amoureux de la Roma, mais il le montre moins. Osimhen, c'est vrai que ça part un peu dans tous les sens tout le temps. Et tu sais jamais à quel moment ça peut vriller. Et c'est vrai que c'est un problème aujourd'hui qu'il doit avoir. Et c'est un point, on va dire, de son caractère qui doit progresser. On espère que Spalletti arrivera, mais c'est vrai que Spalletti aussi dans ce sens-là.
C'est ça.
C'est pas le meilleur exemple. Donc voilà.
Et tu as bien fait de corriger ma bêtise, il n'a pas disputé la CAN,
Oui,
puisqu'il
parce que
était
du coup,
blessé.
ouais, il a repris le 17 janvier contre Bologne où il joue une vingtaine de
Exactement.
minutes. Et t'as recru la saison, Johan, du coup, tiens.
Eh bien moi j'ai mis Zambo Anguissa.
Oui. Déjà parce qu'il n'y a pas eu de recrue, hein, déjà. On va pas se mentir.
N'y a pas eu beaucoup de recrues, mais c'est vrai que la deuxième partie de saison elle est moins impactante que la première, mais justement pour reprendre le terme impact.
Exactement, ouais.
L'impact qu'il a eu en début de saison, parce que c'est un joueur qui a des grosses qualités athlétiques, mais qui a aussi de grosses qualités techniques. Souviens-toi, ça a été phénoménal au début.
Ah oui, ouais.
C'est-à-dire que il y avait des articles quasiment tous les jours dans la presse italienne en soulignant combien Zambo Anguissa était en train de devenir absolument indispensable à cette équipe du Napoli. Et ça a été difficile ensuite parce qu'il a eu beaucoup moins d'impact, pour reprendre ce terme-là, en deuxième partie de saison. Il n'a pas toujours été à 100%. On se souvient qu'il s'était blessé en décembre, je crois, de mémoire. Ensuite, en son absence, bah, malheureusement pour lui, Lobotka, il a fait un super
Il est
intérim.
très très bon.
Et oui, dans un style très différent, mais il a été très très bon. Et il a eu du mal à revenir jusqu'à la fin de saison où je l'ai vu faire 2-3 apparitions où je me disais, tiens, on est en train de retrouver le Zambo Anguissa de début de saison. Donc, il faudra suivre ça la saison prochaine. Mais si on retrouve le Zambo Anguissa du début de saison, on a encore un joueur qui va dominer les milieux de terrain de manière générale la saison prochaine.
Ouais, il avait été blessé en fin d'année dernière où il avait manqué plusieurs matchs. Et c'est vrai qu'après, il y a eu la CAN aussi. Hein.
Ouais.
On va dire qu'il a un peu coupé entre guillemets dans sa lancée avec le Napoli. Mais c'est évidemment un joueur qui. Voilà, moi, tu vois, j'ai marqué en gras, en gros, impact. Donc voilà, pour moi, ça résume vraiment le. Et l'impact, pas seulement dans le jeu ou sur le terrain, mais même l'impact qu'il a eu bah, pour l'environnement, parce que c'est vraiment un joueur qui a été vite apprécié aussi. On rappelle qu'il était en prêt. De Fulham et je pense que l'option d'achat il n'y a pas eu beaucoup de débats autour du fait de la lever et c'est je crois peut-être au mois d'octobre ou novembre où on parlait déjà du fait que Napoli pouvait lever son OA donc qui était d'une quinzaine de millions d'euros donc voilà c'est vraiment un joueur qui a surpris son monde moi je me souvenais de lui évidemment à l'OM après j'avais un peu perdu de vue mais en tout cas voilà cette saison là il était assez énorme avec le Napoli et c'est vrai que voilà, le post-CAN, on va dire, la deuxième partie de saison était plus compliquée pour lui sur certains points, mais en tout cas, ça reste un pilier de l'équipe de Spalletti, du 4-2-3-1 de Spalletti. Et l'année prochaine, il aura un rôle à jouer, surtout avec une préparation derrière lui, voilà, avec une équipe qu'il connaît déjà, un championnat qu'il a appris à apprivoiser. Donc, c'est vraiment un joueur qui a été imposant et voilà, je pense qu'on ne pourra pas faire mieux que le mot impact dans tous les sens du terme parce qu'il a été impressionnant du début à la presque fin.
Guillaume, on termine par la note. Quelle note as-tu mis au Napoli?
Écoute, je sens que tu vas être plus généreux que moi, mais moi j'ai mis un 7. Alors les gens vont me dire comme Inter, oui, comme Inter, mais j'ai déjà décrit pourquoi comme Inter. Mais le Napoli 7, allez, même 7,5. Allez, je vais mettre 7,5 au Napoli, je vais te dire pourquoi. C'est parce qu'il. Non, non, je confirme 7, tu vois. Finalement, je confirme 7. Je confirme 7, je ne change pas d'avis. Je confirme 7 parce que tout d'abord, ils ont réussi leur objectif, qui était le top 4. Donc voilà, c'est une troisième place qui plus est, donc le podium. Je pense que les supporters auraient signé en début de saison pour être troisième, si on enlève la trajectoire de la saison. Après, voilà, il y a cette déception, on va dire, en dehors des coupes. C'est pour ça que je ne passe pas à cet ennemi, parce que je m'attendais à mieux quand même sur la scène européenne pour Naples. Mais en tout cas, voilà, il ne faut pas oublier que l'objectif, c'était le top 4. Il est atteint. Il y a eu un début de saison canon. Il y a eu des bases solides malgré voilà, tout ce qui s'est passé en fin de saison. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est un 7 parce que bah, l'objectif est rempli et que tu as quand même une bonne saison derrière toi si on enlève le post-Empoli, on va dire.
Eh bien, j'ai mis un 7 également. Ah. Donc, ouais. Objectif atteint en Serie A, mais je peux pas mettre plus parce que dans les autres compétitions, je m'attendais à mieux, en fait. Donc,
ouais, t'es un peu déçu de...
Ouais, je suis un peu déçu de l'Europa League. Je suis un peu déçu aussi de la Coupe d'Italie parce qu'ils avaient pris quand même une sacrée claque par la Fiorentina.
La Fiorentina, ouais.
Donc, tu dois faire mieux, je trouve. Que ce qui a été fait dans les autres compétitions. Mais après, sur le championnat, très sincèrement, ça a été de qualité, objectif atteint, le jeu développé de qualité. On a des joueurs qui ont progressé avec Luciano Spalletti, pardon. Et donc, ça me semble une note.
Après, tu vois, honnête. On peut comprendre. Moi, je comprends la décision des tifosi sur le. Au vu de la dynamique de la saison. C'est évident que tu te prends au jeu du Scudetto parce que bah, y a une bataille à trois avec Milan et l'Inter. Donc, quand tu es là, évidemment que c'est compliqué de laisser passer le titre d'aussi près. Mais c'est vrai que si on prend plus de recul et un peu de hauteur sur la globalité de la saison du Napoli, l'objectif quand même est atteint et c'est compliqué de mettre moins de 7, même si évidemment je comprends la déception, mais tu as quand même l'objectif qui est atteint. Donc, c'est pour moi quand même globalement une bonne saison du Napoli.
Eh bien, je suis bien d'accord, mon cher Guillaume. Voilà qui boucle notre épisode spécial Bilan Napoli, saison 2021-2022. On remercie une nouvelle fois nos auditeurs et auditrices du podcast Calcio PP. N'oubliez pas les 5 petites étoiles sur Apple Podcasts. Je crois même qu'on peut mettre des étoiles sur Spotify maintenant.
Ah.
Ou des petites notes ou quelque chose comme ça. Donc, n'hésitez pas non plus sur Spotify. Et on se dit à très vite. On va remonter dans le nord après les deux clubs de Milan, après le Napoli. On remonte dans le nord et comme vous l'avez deviné maintenant, j'espère.
Dans le Piémont.
Voilà, exactement. On va passer au quatrième de Serie A cette saison. Merci beaucoup et à très vite.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.